Et le continent blanc plus que jamais d'actualité avec une soirée spéciale tout d'abord sur Arte samedi et puis le film événement de Luc Jacquet, L'Empereur, qui arrive le 15 février sur les écrans. Spécial Antarctique donc cet après-midi dans l'émission pour évoquer l'expédition Antarctica qui a permis donc à une équipe de scientifiques et d'artistes d'étudier et de mettre en image la biodiversité sous-marine et terrestre dans l'un des archipels de ce vaste continent. Luc Jacquet, Laurent Balesta et Christophe Barbeau sont mes invités. J'attends toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, la situation pour les scientifiques américains qui s'assombrit déjà une semaine seulement après l'arrivée de Donald Trump.
Oui, Trump n'est pas ami des scientifiques et il le prouve. En moins d'une semaine, il a déjà mis en place une stratégie de contrôle et de censure sur la recherche publique. Pour en parler, nous recevons un prix Nobel de physique indigné. Serge Haroche sera notre invité par téléphone.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui s'est intéressé cette semaine à l'état de santé justement des hommes politiques. Stéphanie Texier réalise l'émission préparée par Chantal Le Montagnier avec Pierre de Certaine.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'Antarctique, donc, dans quelques minutes dans notre dossier avec mes invités, le réalisateur Luc Jacquet, le biologiste et plongeur Laurent Balesta et le chercheur ornithologue Christophe Barbeau. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue. Bonjour. Luc Jacquet, 12 ans plus tard, vous avez retrouvé donc les manchots empereurs. Vous aviez encore des choses à filmer?
Manifestement.
Mais oui, c'est ce qu'on voit.
Avec des techniques, avec des gens, avec en particulier Laurent qui vous expliquera comment on a pu aller percer le secret des profondeurs en Antarctique sur cette première mondiale qu'on a pu faire pour ce tournage.
Ouais, Laurent Balesta, plongé sous la glace de l'Antarctique, c'est facile pour un manchot, beaucoup moins pour un être humain.
Ouais, mais ça vaut la peine. D'ailleurs, voilà, l'expression « valoir la peine » a pris toute sa mesure là-bas.
Pour vous. Ouais. Ouais. Christophe Barbeau, est-ce que les effets du réchauffement climatique se font déjà sentir sur les colonies de manchots?
Oui, on les voit depuis quelques années maintenant en Antarctique sur plusieurs espèces. Oui.
Ouais. Et c'est préoccupant? C'est déjà des phénomènes très marqués?
C'est une partie du cycle naturel des espèces et de l'évolution du climat. L'inquiétude qu'on a, c'est que c'est la rapidité à laquelle ça a lieu actuellement. Quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant avec donc cette actualité antarctique chargée et avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. À la une de la science, Donald Trump et son administration qui n'ont pas perdu de temps pour asséner un coup de massue à la communauté scientifique. Une série de mesures annoncées hier et mardi interdisent désormais aux chercheurs employés des agences fédérales de répondre aux journalistes ainsi que de mettre à disposition du public des résultats de recherche via Internet ou les réseaux sociaux. Et pire encore, les données climatiques publiées et en cours de publication par l'Agence nationale pour l'environnement vont faire l'objet d'un contrôle direct de la part de l'administration. Serge Haroche, bonjour. Merci d'être avec nous en ligne pour réagir donc à cette série d'annonces arrivées des États-Unis. Vous êtes prix Nobel de physique, plusieurs fois vous êtes exprimé sur notre antenne et vous avez exprimé vos inquiétudes vis-à-vis de l'administration de Trump. Cette fois, il faut employer le mot, on parle de censure, clairement.
Oui, je pense que oui. En fait, je me souviens qu'il y a à peu près un mois et demi ou deux mois, juste après l'élection de Trump, j'avais déjà dit l'inquiétude des milieux scientifiques aux États-Unis et dans le monde. Et malheureusement, nos craintes sont maintenant justifiées. À chaque étape, on pense qu'il va reculer, que ce qu'il a dit pendant la campagne électorale ne va pas l'appliquer. Et on s'aperçoit à chaque fois que c'est plus grave que ce que l'on pensait. Il est clair que maintenant, il s'agit véritablement il s'agit de subordonner la publication d'articles scientifiques ou de données à une censure ou à un contrôle par une administration qui n'est pas directement scientifique. Il s'agit d'une censure et c'est extrêmement grave.
Quelle est la stratégie derrière toutes ces mesures? Pourquoi les scientifiques, dès les premiers jours de son arrivée au pouvoir?
Écoutez, c'est un homme dont l'administration vient d'inventer ou vient en tout cas de définir la notion de vérité alternative ou de fait alternatif. Et ça signifie simplement que on refuse les faits qui ne sont pas, qui sont contraires aux intérêts que l'on suppose être les intérêts du pays. Et donc, par exemple, le réchauffement climatique, on le considère comme étant un fait qui peut être amendé, qui peut être modifié en fonction des circonstances, simplement parce que les informations que l'on obtient sont embêtante sur le plan économique. Il y a quelques semaines, au cours d'une interview par le New York Times, Trump avait déclaré, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le réchauffement climatique était un fait avéré, il a dit que c'est compliqué et puis ça va coûter beaucoup d'argent. Donc voilà la philosophie de quelqu'un qui pense que la vérité doit être subordonnée au savoir si ça va avoir une influence ou un impact sur l'économie ou sur les finances. C'est vraiment extrêmement grave de voir que finalement le thermomètre, en particulier tout ce qui permet de mesurer l'existence du réchauffement climatique ou sa gravité, eh bien on refuse de le prendre en compte parce que c'est une information qui est dérangeante.
On a vu apparaître sur les réseaux sociaux un mot-clé cette semaine aux États-Unis, c'était « data refuge », des scientifiques, surtout des climatologues, qui cherchaient à faire des sauvegardes de leurs données certifiant du réchauffement climatique hors des laboratoires. C'est un phénomène dont vous avez entendu parler ?
J'en ai entendu parler il y a quelques jours et ça me paraît effectivement une mesure saine. Il faut que la communauté scientifique puisse se défendre et si elle peut protéger les données qui sont mises en danger par cette censure qui semble s'avérer de plus en plus, eh bien, il faut absolument qu'elle le fasse.
Vous pensez vraiment qu'il pourrait mettre en place une forme de désinformation climatique à grande échelle via les agences fédérales ?
J'espère que non, mais enfin, la désinformation, elle est déjà là. Et je trouve que c'est assez paradoxal que quelqu'un qui a basé toute sa communication sur des tweets ou sur des réseaux sociaux interdise l'utilisation des réseaux sociaux à ceux qui pourraient essayer de remettre les choses au point et de donner leur point de vue.
Ouais, Serge Roche,
ça me paraît extrêmement grave.
Vous discutez évidemment avec vos confrères américains régulièrement. Qu'est-ce qui vous arrive de leurs propos ? Quel est le sentiment là-bas aux États-Unis lorsqu'on est un scientifique aujourd'hui à l'ère Trump ?
Les scientifiques que je connais sont absolument atterrés. Les bras leur tombent. Enfin, ils sont dans un état de sidération. Je crois qu'on peut le dire et que le mot n'est pas trop fort. Jusqu'au dernier moment, ils ont pensé d'abord, ils ne croyaient pas en l'élection de Trump, comme la plupart des médias également, et là, ils sont vraiment tombés des nues lorsque ça leur est tombé dessus, en quelque sorte, et ils ne savent pas quoi faire. C'est clair qu'il y a un moment de désarroi dans la communauté scientifique, non seulement en ce qui concerne la science et la recherche scientifique, mais tout simplement l'éducation. On parle de mesures prises par Trump dans le cadre de l'environnement, enfin de l'Agence pour la protection de l'environnement, mais la personne qui est nommée à l'éducation est également quelqu'un d'extrêmement dangereux pour l'éducation du pays, puisque c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'éducation publique, qui est créationniste, qui ne croit pas en la théorie de l'évolution et qui veut promouvoir dans l'éducation les thèses créationnistes et mélanger les notions de science et de religion de façon absolument délétère et dangereuse pour le pays.
On parlait jusqu'à aujourd'hui de la fuite des cerveaux vers les États-Unis. Vous pensez que c'est un phénomène qui va s'inverser ?
J'espère que non, parce que ce serait extrêmement grave que le pays, un pays qui a été à la tête de la science mondiale en soit arrivé là, mais je sais, j'ai entendu dire que en tout cas des scientifiques venant d'autres pays, des scientifiques venant en particulier de pays du tiers-monde, du Moyen-Orient ou d'Inde, commencent à se sentir mal à l'aise après l'élection avec le climat qui a été créé par l'élection de Trump. Et ces jeunes scientifiques, s'ils n'ont pas, en particulier ceux qui sont des post-docs et qui n'ont pas de position permanente, vont être tentés de revenir, de quitter les États-Unis, de revenir par exemple en Europe. C'est quelque chose dont l'Europe pourrait profiter, mais ce n'est pas ce que je souhaite, parce que vraiment profiter d'une situation comme celle-là n'est certainement pas quelque chose qui est souhaitable.
Serge Haroche, certains scientifiques organisent la résistance déjà aux États-Unis. Une grande marche est prévue en mars à Washington pour réfléchir justement à faire barrage à l'administration Trump. Quels sont les moyens de lutter contre ces actions ? Est-ce qu'en Europe, vos confrères ont envie de se mobiliser aussi pour essayer de faire quelque chose ?
Je pense que ce serait effectivement bien de montrer les signaux en Europe, indiquer qu'on est de tout cœur avec les scientifiques américains, qu'on essaye de les soutenir dans ces circonstances pénibles. Ce qu'on peut faire exactement, je ne sais pas. Je sais que le domaine de la science qui est le plus directement menacé, c'est celui qui porte sur les recherches sur le réchauffement climatique, puisque Trump essaye de saboter tous les efforts allant en ce sens. Et je sais que mes collègues en Europe et en France qui ont fortement œuvré pour l'accord de Paris, en particulier pour que les mesures contre le réchauffement climatique soient efficaces et soient mises en œuvre, sont en contact avec leurs collègues américains et toute initiative qu'ils pourraient prendre en ce sens, je pense que toute la communauté scientifique devrait la soutenir.
Merci beaucoup en tout cas Serge Haroche pour vos paroles aujourd'hui donc à la Une de la Science et puis évidemment la situation qui sera à suivre de très près et au jour le jour visiblement vu la vitesse
des événements. La vitesse où ça va, oui.
Merci Serge Haroche, au revoir. Et à demain, Axel.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le diabète responsable d'un mort sur 10, justement, aux États-Unis. Des chercheurs des universités de Boston et de Pennsylvanie ont analysé deux bases de données nationales compilant des informations sur près de 300 000 Américains entre 97 et 2010. Ils ont conclu que le diabète était responsable de 12% des décès là-bas. La précédente étude de ce type portant sur les années 80-90 imputait seulement 4% des décès à cette maladie. Selon les scientifiques, cette disparité est due à la fois à des erreurs statistiques et au développement épidémique du diabète dans le pays. Les vents de Jupiter reproduits en laboratoire lors de l'émission de lundi dernier, on vous expliquait que la dynamique de l'atmosphère de Jupiter restait très mystérieuse. Eh bien, la revue Nature Physics nous apprend cette semaine qu'une équipe de scientifiques français a percé une partie de ce mystère. Dans un réservoir de 400 litres d'eau, ils ont réussi pour la première fois à recréer des turbulences similaires au courant jet de la planète géante et à générer localement la géométrie de son atmosphère. Désormais, les chercheurs vont utiliser les données de la sonde Juno en orbite autour de la planète afin d'affiner leur modèle. Et puis dans le futur, nos vêtements pourraient augmenter notre force, c'est ce que semble permettre le tissu actionneur. Mis au point par des scientifiques suédois, ces derniers ont tricoté des fils de cellulose mêlés à un polymère appelé polypyrol, qui a la particularité de s'étendre ou de se contracter lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Testé avec succès sur un bras en Lego, les chercheurs pensent que des vêtements fabriqués avec ce tissu pourraient aider des personnes ayant du mal à marcher ou souffrant de faiblesses musculaires. Allez, on file en Antarctique dans un instant. All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin. And then the kisses. And then the kisses. Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses following courses. Like a butterfly effect, one dip of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes. Et 5 minutes avec Her sur France Inter.
La tête carrée. sur France Inter.
Et la discussion est déjà lancée avec mes invités pour ce coup de projecteur sur l'Antarctique avec une actualité nourrie justement dans les prochains jours. On va essayer de s'y repérer, Luc Jacquet. Il y aura d'abord une soirée spéciale sur Arte samedi avec deux documentaires, Antarctica sur les traces de l'Empereur, c'est à 20h50, et puis Les secrets des animaux des glaces à 22h20. Et puis donc votre film L'Empereur qui sort au cinéma le 15 février avec ce dialogue et les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé L'Attaque. Vous me disiez hors antenne, Luc Jacquet, que votre film La glace et le ciel sort aux États-Unis.
Oui,
bah, pour organiser une projection pour Donald Trump.
Oui, moi je suis un peu sidéré aussi comme tout le monde là. Et c'est vrai que c'est un hasard du calendrier, ou pas un hasard d'ailleurs, c'est un geste assez fort du distributeur américain. Mais c'est, moi j'avais fait ce film justement pour ça, pour ramener les choses dans leur vérité, savoir d'où viennent ces données, pour établir une vérité historique. J'espère qu'on saura s'en inspirer, mais c'est vrai que c'est un peu désespérant.
Bon, en espérant que la censure ne frappe pas votre film aux États-Unis, on va voir ce qui se passe. Tout peut arriver, en tout cas, visiblement. Alors, Luc Jacquet, expliquez-nous d'abord le contexte qui explique cette actualité chargée pour l'Antarctique, avec donc cette expédition au départ en Antarctica.
Donc, il y a un an, effectivement, on est parti à 11 sur cet endroit merveilleux qui s'appelle l'archipel de Point de Géologie, où est basée la base de l'Institut Polaire, qui s'appelle la base du Mont d'Urville. L'idée pour moi, c'était de raconter, de multiplier les regards, à la fois sous l'eau, sur l'eau, avec des points de vue qui étaient suffisamment différents pour faire apparaître toute la complexité d'un tel archipel de biodiversité. Et c'est pour ça qu'on est parti avec toute l'équipe et en collaboration avec Christophe Barbeau, un vieux complice qui travaille au CNRS, justement pour arriver, en mélangeant l'art et la science, arriver peut-être à mieux faire comprendre, peut-être arriver à sensibiliser davantage sur toutes ces questions qu'on a évoquées tout à l'heure, au fond.
Avec donc, au cours de cette expédition, différents dispositifs, c'est-à-dire qu'à la fois de la photographie, Laurent Balesta, Vincent Munier, et puis donc du documentaire pour la télévision et du cinéma pour vous avec Disney qui produit votre film.
Oui, ça c'est vraiment un travail que je fais avec White Touch depuis quelques temps, mon ONG. On avait travaillé sur les forêts tropicales, on a mentionné la glace et le ciel l'année dernière. L'idée, c'est vraiment de travailler sur plusieurs médias avec plusieurs points de vue pour aller toucher des publics différents, partant du principe que je crois que c'est par l'émotion et que c'est par la connaissance qu'on va arriver peut-être à faire comprendre ces notions complexes ou un peu rébarbatives des logiques de biodiversité et de conservation de la nature aujourd'hui. Et c'est donc en faisant appel à des talents comme ceux de Laurent, comme ceux de Vincent, comme ceux de Jérôme, en leur laissant finalement une carte blanche, que j'espère finalement par l'émotion et l'émerveillement, osons le mot, faire toucher du doigt le privilège absolu que nous, on vit quand on est dans des endroits comme ça.
Ouais. On va parler de l'Empereur, donc il va sortir sur les écrans là en février, 12 ans après donc la marche de l'Empereur. Mais avant ça, donc c'est documentaire samedi soir pour cette soirée spéciale sur Arte, Laurent Balesta et Christophe Barbeau. Alors, quels étaient vos rôles respectifs à tous les deux pour que les auditeurs comprennent bien à qui on s'adresse? Laurent Balesta d'abord?
Moi, je répondais en fait à l'invitation de Luc, d'aller regarder les manchots sous l'eau. Et puis quand j'ai reçu cette invitation 2 ans avant qu'on parte d'ailleurs, j'avais tout de suite dit à Luc OK, ça c'est un peu l'exercice imposé, les manchots, et puis j'aimerais bien un exercice libre. Et ça serait d'aller explorer profond en grande profondeur l'Antarctique, parce que j'y avais fait quelques incursions vraiment très rapides il y a 10 ans auparavant, et j'avais vu que plus on descendait profond en Antarctique, plus la biodiversité augmentait et ensuite était digne presque des récifs coralliens. Donc il y avait une vraie part d'exploration, c'est ce qui était très très motivant aussi là-dedans.
Alors justement, extrait du documentaire qu'on verra donc samedi à 20h50 sur les traces de l'Empereur. Cette plongée, une de celles que vous avez réalisées et qui visiblement était assez compliquée à supporter.
Tu vas avoir des images magnifiques, j'en suis sûr.
Si c'est au prix, si c'est proportionnel à la souffrance, j'ai que des chefs-d'œuvre.
J'ai l'impression que c'est la journée dans l'eau. J'arrive à évaluer un peu la difficulté. Et pourtant, je t'envie, hein. Je crève d'envie d'y être, mais là, quand je vois dans quel état tu sors. Moyen.
Voilà, Laurent Balesta, vous attendiez à vivre des plongées sous-marines très difficiles. Visiblement, vous n'avez pas été déçu.
Non, je pensais même qu'on ne pouvait pas atteindre ce niveau-là d'épuisement. Mais ça s'explique après. C'est parce que aussi Je pense qu'on a tous eu ce sentiment d'être extrêmement privilégiés, d'être là-bas, d'être reçus par l'IPEF, par l'ETAF. C'est des places, mine de rien, qu'on a pris à des chercheurs. Donc, il fallait quand même faire quelque chose de conséquent pour se justifier. Et puis, il y avait une vraie pression. La pression de répondre à l'invitation de Luc, faire des images à la hauteur de ce qu'il espérait. La pression de savoir que quand je faisais des photos sous l'eau, j'avais le ô combien talentueux Vincent Munier qui faisait la même chose sur la glace. La pression de voir les visages de mes camarades à la fin de ces plongées marqués par le froid, la souffrance et me dire il faut qu'eux aussi soient fiers de ce qu'on est en train de faire, qu'ils se disent pas tout ça pour ça. Donc voilà, ça peut paraître un comble pour un plongeur, mais moi j'ai rarement senti autant la pression et c'est peut-être naïf, mais je me suis rarement senti autant investi du devoir de bien faire.
Ouais, tout ça avec votre combinaison radiateur, c'est ça? Parce que vous aviez un petit système de chauffage
tout ce qu'on avait pu trouver pour augmenter ce temps, parce qu'encore une fois, on n'était là-bas que 50 jours, il fallait maximiser le temps sous l'eau, et il faut bien comprendre que dans une eau à moins 1,8, si on tombe dans l'eau tout nu, ou tout habillé d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose, l'espérance de vie, c'est 10 minutes.
C'est rapide.
Donc et on a fait des plongées jusqu'à 5h30, donc il fallait effectivement être extrêmement bien protégé, on avait des chauffages électriques, ça a été un long développement, mais ça a été fructueux, je crois, on a vraiment ramené plein de choses qui nous les premiers nous ont surpris chaque jour.
Ouais, on retrouve d'ailleurs cette expédition chez Paul Sen avec ce livre, Luc Jacquet, Antarctica, les photos de Laurent Balesta et de Vincent Munier et puis toute votre équipe, donc 11 mecs d'ailleurs, il n'y a pas une femme avec vous, on regarde la galerie de portraits, on se dit mais où sont les femmes? Bon, bravo pour la parité. Hein.
Non, mais je pense qu'elles ont eu un peu peur peut-être.
Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, bien sûr. Christophe Barbereau, alors votre rôle, vous qui êtes chercheur à Chizé.
Alors moi, mon rôle, c'était de toute façon une campagne, ce qu'on appelle des campagnes d'été. Donc c'est des missions scientifiques qu'on conduit là-bas pratiquement tous les étés. J'allais là-bas pour étudier les oiseaux. On a des suivis sur très long terme, on suit des colonies depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc ma première mission, c'était une mission scientifique de toute façon. Et puis après, Luc m'a contacté quand il a monté l'expédition pour la préparer. Et donc m'a demandé si j'étais prêt à participer pour donner un peu un éclairage scientifique sur certains aspects des manchots empereurs et des autres espèces. Quoi. Et donc j'ai accepté volontiers de le faire en étant sur place, ça tombe vraiment très bien.
Une façon aussi de faire un point sur la situation de ces animaux particuliers, dans ce milieu aussi très particulier aujourd'hui, pour faire un état de la science.
Oui, c'est-à-dire que la science là-bas, c'est plusieurs laboratoires qui travaillent avec beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants qui sont du coup soutenus vraiment énormément par l'Institut polaire Pauline Victor. Et sans tous ces gens-là, c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, la science là-bas, c'est un travail d'équipe à plein de niveaux. Et tout ce qu'on sait actuellement et ce qu'on peut raconter dans les films, etc., c'est vraiment le résultat de d'années de recherche de beaucoup de personnes.
Avec différents travaux qui sont menés, on le voit d'ailleurs dans le documentaire. On en parlera avec vous tout à l'heure. Laurent Balesta. Alors allons un petit peu sous l'eau parce qu'il y a quand même des drôles d'animaux. Hein. Ça, c'est une faune absolument incroyable avec des systèmes de résistance au froid d'ailleurs qui sont quasiment unique.
Ouais, bon, il y a par exemple beaucoup de poissons qui, en tout état de cause, devraient être gelés. L'eau est en dessous de zéro. Ouais. Donc ces poissons devraient être figés puisqu'ils sont à la même température que le milieu. Et ils ne le sont pas. Donc, et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient des protéines anti-gel dans leur sang. Donc il y a des adaptations. On a découvert des petites anémones. Par définition, une anémone, c'est un corps mou capable de forer la glace la plus dure pour s'y loger. Par un mécanisme qui reste encore mystérieux.
Donc elle se durcit tout d'un coup pour être capable de forer
Ça, je pourrais pas l'expliquer. Personne apparemment pour l'instant peut l'expliquer. N'empêche que ces anémones sont bien là. Elles ont été décrites à peine l'année dernière. Donc c'est des espèces vraiment nouvelles, illustrées pour la première fois pendant l'expédition. Et puis c'était tous les jours. Il faudrait l'après-midi pour raconter la petite découverte de chaque jour, de chaque plongée. Donc maintenant, ces champs de pétoncles, vous savez, ces petites coquilles Saint-Jacques des centaines de milliers de ces petites coquilles Saint-Jacques à perte de vue sur des fonds marins, où la plus grande d'entre elles mesurait 8 cm, mais était âgée de 90 ans. Et donc on est dans des paysages, dans une biodiversité très très riche, mais qui s'inscrit dans un métabolisme très lent,
ouais.
et donc forcément d'une grande fragilité.
Comment on arrive à dater, à donner à l'âge de, des
pétoncles ? Ça, c'est des spécialistes des mollusques qui étaient avec nous d'ailleurs là-bas, Laurent Chauveau, qui est un spécialiste des mollusques et qui sait dater les coquilles des mollusques, et qui nous avait dit, quand on lui a parlé de ces coquilles Saint-Jacques, il a tout de suite vu que certains des plongeurs envisageaient peut-être d'en goûter une ou deux.
C'est ça.
Et il a suffi qu'il donne l'information.
Ouais.
Et je peux vous assurer que ça tout de suite, on les regarde différemment. Ouais. Ouais.
Extrait du secret des animaux des glaces, justement, ce sera ce documentaire le second, diffusé à 22h20 sur Arte. Une autre curiosité, le poisson qui n'a pas de sang, par exemple.
Au fil de l'évolution, ces poissons ont en fait débarrassé leur sang de leurs globules rouges et de leur hémoglobine. À la place, ils captent l'oxygène à travers leur peau.
Lorsque vous avez peu de cellules dans votre sang, alors votre sang est plus fluide. Sa viscosité diminue et il peut circuler beaucoup plus facilement.
Ce sang plus fluide, sans cesse en mouvement, gèle ainsi plus difficilement qu'un sang dense et visqueux. Un autre atout dans la résistance extrême de ces poissons venus du froid.
Voilà, il a du sang, mais il n'a pas de globules rouges. Hein. Il faut être tout à fait précis sur ce qu'on dit. Mais c'est très étrange, parce que quand on le découpe, on voit que du blanc partout.
C'est ça.
En réalité.
Ouais. On ne les a pas découpés, on les a photographiés.
Ah oui, mais enfin, il y a quand même une petite découpe dans le film. On
voit cette chercheuse. Ça, c'est l'autre film. C'est pas le film de l'expédition.
On voit une des chercheuses, en fait, effectivement, qui nous le présente. Christophe Barbereau, comment on peut décrire l'environnement de l'Antarctique et cette faune tout à fait particulière?
Alors en fait, ce qui fait vraiment découvrir cette campagne d'été avec cette équipe, c'est qu'il y a deux Antarctiques. Il y a l'Antarctique de surface, que moi je connais bien, donc c'est les oiseaux comme les manchots, les pétrels, etc.
Ouais.
Et les phoques qu'on voit un peu en surface, et puis il y a l'Antarctique sous la surface, qui est vraiment quelque chose de différent, que je connaissais très très peu, un petit peu avec des collègues, mais là avec les images qui ont été faites, c'est vraiment spectaculaire. De voir en fait la quantité d'organismes qu'il y a sur le fond, des biomasses considérables, et on a vraiment l'impression de rentrer sous les tropiques quand on voit ces images sous l'eau. Quoi. Je sais pas les sous, mais par rapport à ce qu'on voit en surface, quoi. Et autant en surface, on est impressionné par les capacités d'adaptation, typiquement des manchots empereurs pour survivre pendant l'hiver. Autant sous l'eau, c'est pareil. Il y a certainement des capacités et des adaptations qui ont évolué, qui permettent à ces organismes de se maintenir dans des eaux froides, qui sont probablement très spectaculaires. Ouais. Alors, une de ces adaptations, c'était les protéines antigènes, en fait, qui empêchent la formation de cristaux de glace dans les poissons.
Mmh.
Mais il y a certainement beaucoup d'autres adaptations qui sont encore inconnues et qui restent à découvrir. Et malheureusement, il y a relativement peu de recherches fondamentale et de suivi à long terme sur ces écosystèmes sous-marins en Antarctique.
Mais c'est compliqué aussi.
Alors voilà, la raison est probablement à l'origine la difficulté en fait de mener des recherches sous l'eau avec tout l'équipement que ça nécessite, la logistique.
C'est ça.
Qui est beaucoup plus lourde encore que ce qu'on fait en surface.
Quoi. Ouais. Vous étiez limité en temps, Luc Jacquet, justement, pour cette expédition?
Bah, c'est sûr que je crois qu'on aurait tous aimé avoir plus de temps. On était frustrés parce qu'il y avait tellement de choses à voir. Je pense qu'on était électrisés. Imaginez des jours de 24 heures, il n'y avait pas de nuit. On avait tous énormément de travail aussi. Je pense qu'on avait tous envie de bien faire. Il y avait une espèce de compétition dans cette équipe qui était une saine compétition, on va dire. Mmh. Mais comment peut-on faire mieux? On était en permanence en train d'échanger les informations. Il y avait toujours quelqu'un qui ne dormait pas et qui était sur la banquise pour faire des photos, pour faire des images. Donc c'était à la fois très stimulant et très motivant. Moi j'ai cette image de Laurent et de ses compagnons qui sortent de la dernière plongée, qui se couchent sur la glace et qui dorment comme des animaux sur la glace, épuisés. Ouais. Il y a eu un niveau d'épuisement sur cet expédition, mais parce que voilà, je crois qu'on avait envie de bien faire et puis on avait envie de partager. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut partir dans des conditions pareilles aussi loin que ça, quoi.
Ouais. Laurent Barbereau, chez les oiseaux, par exemple, qu'est-ce que vous étudiez? Parce qu'il y a vraiment le choix, effectivement, hein, sur cette faune, d'étudier plusieurs aspects justement liés à ces animaux.
Oui, alors
qu'est-ce
en fait,
les pontes, par exemple, ça reste toujours quelque chose scientifiquement de très observé ou pas?
La ponte.
Ouais.
Marginalement, je dirais, ce qu'on étudie beaucoup actuellement, c'est tout l'aspect démographique, donc comment les populations encaissent les variations du climat, ou les perturbateurs anthropiques, c'est de la pollution par exemple, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup d'études comportementales, donc c'est au niveau de l'adaptation de ces animaux-là pour survivre au froid, et ça peut être au niveau comportemental, mais aussi au niveau physiologique.
Ouais. Alors justement, sur la pollution, on va écouter Vincent Munier qui en parle à l'occasion justement d'un de ses documentaires.
Quand tu es face vraiment à cette pureté, à ce monde si loin finalement de nos activités humaines, tu te dis enfin un lieu où l'homme n'a pas mis sa griffe, où l'homme n'est pas venu exploiter, gérer. Eh ben non, quand tu es à l'écoute des scientifiques, on te dit que des analyses stomacales révèlent qu'il y a des pesticides, des polluants qui viennent de chez nous, dans ces oiseaux, dans ces manchots, dans ces phoques. Et ça fait mal, il y a une espèce de sentiment de honte, de révolte. Et finalement, cette bulle dans laquelle on pense être ici, n'en est pas une.
Voilà, extrait d'Antarctica sur les traces de l'empereur que vous verrez donc samedi à 20h50 sur Arte. Donc effectivement, on se croit en dehors de toute pollution, préservé du reste du monde en Antarctique, Christophe Barbeau, et en réalité, non.
Les traces sont
visibles, très visibles.
Visible, la pollution, elle n'est pas forcément visible. Hein. C'est une pollution insidieuse, donc il faut vraiment aller prendre des échantillons sur les animaux. Ouais. Mais là, on va trouver, un collègue qui travaille là-dessus au laboratoire HIZ, on va trouver des métaux lourds comme le mercure, en quantité parfois importante, parce que ça va s'accumuler en fait dans la chaîne alimentaire. Et puis, on va trouver tout un tas de résidus de pesticides, de retardateurs de flamme qu'on a dans les vêtements, par exemple les fourrures polaires ou les Gore-Tex. Contiennent des retardateurs de flammes et en fait ils sont dégagés dans l'atmosphère et les pôles en fait curieusement concentrent les polluants parce que ça au niveau circulation atmosphérique on a une concentration de polluants au niveau des pôles et on peut avoir des doses vraiment très élevées qui vont du coup des fois menacer la reproduction de certaines espèces quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant et puis on va parler bien sûr du manchot empereur qui revient sur les écrans le 15 février avec le nouveau film de Luc Jacquet.
Être raisonnable, le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand je n'abrite aucune seule flamme, quand je recherche trop le drame, tu te dis les charbons et les braises. Ça me pèse, toi qui voulais une vie de confort et la seule jouissance du corps. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour serait-il trop fort? Toi paisible qui se tient près du bord, moi qui marche tout en déséquilibre et recherche ta cage pour être libre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu me dis, il faut être raisonnable. C'est du sable. Quand mes sentiments font une cascade, tu me dis qu'il faut être plus aimable. Comment est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?
Et ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. C'est le retour de Gilles Kaplan. Est-ce que tu m'aimes sur France Inter? L'Antarctique, donc, dans notre dossier de la tête au carré avec Laurent Balesta, Christophe Barbro et Luc Jacquet. Avec l'Empereur qui déboule le 15 février sur les écrans. 12 ans, donc, après la marche de l'Empereur. Ça y est, ça va reprendre, hein, Luc Jacquet. Vous allez être obligé de nous parler de Manchon Empereur pendant des semaines et des semaines. Vous qui aviez déjà tout donné il y a 12 ans. Eh ben, c'est reparti.
Ouais, c'est vrai que c'était un sentiment bizarre parce que c'est un animal dont j'avais tellement parlé qu'il oui. y a un moment c'était devenu presque irréel pour
c'est moi. Vrai.
Et c'est vrai que je me souviens quand on est arrivé l'année dernière à Dumont-d'Urville, la première chose c'est que je suis descendu à la colonie de Manchot-Empereur. Et peut-être que parce que je suis un peu plus vieux, parce que peut-être qu'il a fallu mettre 2 ans pour monter cette expédition, ça a été très compliqué. Mais j'ai éprouvé un bonheur absolu d'être là. J'ai été extrêmement ému. Et pour tout vous dire, je leur ai dit, vous savez les gars, j'ai fait de vous des gens célèbres. Bon, évidemment, ouais. ils m'ont pas répondu, mais...
Ouais. L'Oscar, non, ça leur a rien non, fait du tout. Pas de réaction du tout. Ils sont assez impassibles.
Non. Quand même. Non, mais je crois que c'est... Je crois que plus que jamais, c'est une chance de pouvoir côtoyer cet animal. On a passé beaucoup de temps à discuter avec Christophe le soir. En général, c'était vers minuit. On rentrait tous les deux du boulot.
Il faisait jour.
Il faisait jour. Les lumières sublimes, les empereurs passaient devant nous, comme ça. Et on a beaucoup réfléchi, je crois, sur ce que... Deux choses, peut-être. Moi, j'ai été troublé de voir des empereurs qui étaient presque aussi vieux que moi. Ça veut dire que depuis 91, la première fois que je les avais fréquentés, il y avait eu des destins incroyables. Comment peut-on vivre dans un environnement
survivre,
pareil,
ouais.
survivre ouais. aussi longtemps? Donc j'ai eu envie de m'intéresser à cette logique de destin. Et il y a un deuxième point sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est mais finalement tout ce qu'on ne sait pas. Et c'est vrai qu'en voyant partir ces poussins, on les a vus sur la colonie, et puis un beau jour, comme ça, ils prennent la route, ils partent vers l'océan, ils n'ont jamais vu l'océan, ils sont hors de vue, et pourtant ils prennent le bon cap, ils s'approchent de l'eau, personne ne leur a appris ni à nager, ni à pêcher, ni même leur a montré la forme des proies. Et pourtant, ils vont plonger, ils vont se jeter à l'eau.
Alors ça, c'est peut-être justement...
Et ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant.
Et
vraiment.
C'est plutôt le fil, d'ailleurs, de ce second opus, hein, sur le Manchot Empereur. C'est tout ce qu'on ne sait pas, en tout cas, cette question de l'instinct. Comment font ces animaux pour se repérer? Alors qu'apparemment, il n'y a pas d'apprentissage de la part des parents sur les poussins. Et pourtant, de génération en génération, ils trouvent le bord pour aller dans l'eau, apprendre à nager, à pêcher.
C'est sûr que c'est une partie qui est vraiment instinctive et qui est ancrée dans l'animal. Parce que là, il n'y a aucun apprentissage. Les ouais. parents abandonnent au bout d'un moment les poussins et à eux de partir en mer.
Alors, quand on dit poussin, il faut peut-être juste préciser, parce que le poussin, c'est pas le petit poussin qu'on imagine de poulet. Hein. Le poussin, il est déjà quand même
assez gaillard. Ouais, le poussin, quand
gaillard,
il part,
hein.
il est déjà bien emplumé. Ouais. Et puis, il fait entre 15 et 20 kilos. Ouais. Les plus gros sont à 22, 23 kilos.
Ouais.
Donc c'est plus petit qu'un adulte quand même, qui eux arrivent à 40, 45 kilos pour les plus gros.
Ouais. Donc il y a un moment, effectivement, ils sont laissés par les parents, et là, il y a une espèce de miracle qui se met en route, et qui fait que voilà, l'animal arrive à survivre.
Alors je parlerai pas de miracle, c'est pas trop dans ma culture scientifique,
oui.
mais
surtout à l'air trop.
Mais il y a voilà, mais il y a vraiment, oui, il y a vraiment un déclencheur. Alors il y a probablement des déclencheurs physiologiques. Ça, on sait qu'il y a des sécrétions de certaines hormones
ouais.
qui engendrent un comportement d'activité quand les animaux sont affamés. Donc il y a probablement ce mécanisme-là. Ensuite, par contre, ce qu'on ignore totalement, c'est pourquoi et comment ils prennent cette direction plein nord. Quand ils partent du bord de la banquise. Et on les avait vus, on avait vu d'ailleurs un groupe ensemble avec Luc là, quand ils sont partis. Ils se sont mis à l'eau. Ça dure, on va dire, 30 secondes, une minute où ils s'ébattent un peu dans l'eau. Puis tout d'un coup, on commence à les voir s'éloigner. Puis ils partent. Et quand on regarde les trajets qu'on obtient avec des balises Argos,
ouais.
et en fait, on voit qu'ils partent, mais plein nord. Il n'y a pas trop de déviation, hein. C'est vraiment
incroyable.
plein nord. Et ils font comme ça plusieurs centaines de kilomètres. Ils vont sortir de la zone de glace. Et là, le mécanisme qui est derrière ça, pour le moment, on le connaît pas. Quoi.
Le GK, c'est Lambert Wilson qui fait la voix du film.
Oui, ça a été une heureuse rencontre parce que pendant qu'on était en Antarctique, Lambert tournait l'Odyssée et rencontrait l'empereur en péninsule antarctique. Il en a été, je pense, largement commotionné. C'est-à-dire que on avait souvent du mal à parler du film, mais on parlait plus souvent des empereurs de l'Antarctique. Je crois que ça fait partie de la magie de ce lieu-là. Je connais personne qui est allé une fois et qui en a finalement réchappé. Je crois qu'il y a toujours une addiction qui se crée comme ça parce que parce que pour beaucoup de raisons, hein, probablement les paysages, probablement la proximité avec ces animaux sauvages qui est absolument incroyable, mais aussi peut-être la confrontation avec les éléments qui sont déments et qui nous remettent peut-être à notre juste place. L'Antarctique, c'est quelque chose auquel effectivement on tient beaucoup finalement.
Extrait du film, ce sera donc le 15 février sur les écrans.
Il passait la plupart de ses journées en crèche, une approximation un peu houleuse des tortues où chacun partageait sa chaleur. C'était au bord de ces crèches que l'empereur et sa compagne revenaient chanter pour appeler leurs petits quand ils étaient de retour de la mer.
Voilà, ça on adore évidemment. Ces vocalises en fait, ce chant des parents pour reconnaître leurs petits.
Oui, bah ça on va entendre Christophe là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette capacité à se reconnaître individuellement avec un code vocal qui est absolument tel une clé et une serrure. Christophe, parle-nous-en.
Christophe Barbeau, quand on parle de crèches d'abord, de poussins, il y en a combien à peu près? Qu'est-ce que ça représente comme population?
Là, quand les images ont été tournées, il y avait plus de 2500 poussins, c'était une très bonne année. Voilà.
Les parents peuvent reconnaître leurs petits au milieu de 2500 individus.
Alors, ça va pas être immédiat. Des fois, ils vont le chercher, mais le mécanisme de reconnaissance, c'est vraiment la voix. Donc, il y a un apprentissage de la voix réciproque du parent avec le poussin, avec le jeune. Et les parents, on les voit arriver de la mer, et puis ils vont commencer à chanter. Ils attendent un peu, ils vont un peu plus loin, ils chantent encore, etc. Jusqu'à ce que le poussin lui réponde, et à ce moment-là, ils vont se trouver et le poussin va se faire nourrir. Et il y a le même mécanisme de reconnaissance entre les deux parents au début de la reproduction, pour qu'ils se synchronisent dans l'incubation, dans la relève, pour reprendre l'œuf ou le petit poussin. Donc il y a une reconnaissance vocale aussi chez les adultes à ce moment-là.
Donc Jacques, ce qu'on voit, c'est que la temporalité, elle est omniprésente, elle est ultra importante dans la vie et la survie justement de ces manchots, depuis l'arrivée de l'œuf, entre le passage de la mère au mâle, parce qu'il y a vraiment ce passage de relais, la mère à un moment part pour aller pêcher, c'est le père qui va couver vraiment l'œuf. Il ne faut pas que l'œuf reste plus de 20 secondes, c'est ça, sur le sol gelé.
Oui, en tout cas quelques secondes sur le sol gelé. Ouais. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette espèce, c'est que j'ai le sentiment de voir, pas toujours en comprenant, qu'ils sont en train d'exécuter une partition parfaite des espèces de maîtres dans l'art d'être vivant, là où plus personne d'autre ne peut survivre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très archétypique, comme ça, très symbolique, de voir ces individus qui luttent comme ça, qui ont une espèce d'endurance folle, et qui effectivement sont d'une précision redoutable. Au moindre délai, au moindre retard, c'est effectivement l'année de reproduction qui peut être mise en cause. Comment font-ils? Quel calendrier, quel chronomètre ont-ils dans la tête? C'est absolument fascinant.
D'ailleurs, il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, Christophe Barbeau, des problèmes liés au réchauffement climatique, justement, avec un effondrement des populations de poussins, parce que précisément, il y avait ce laps de temps qui était trop long entre l'apport de nourriture.
Oui, en fait, c'est ça. C'est ce qui s'est passé depuis récemment. Alors, cette population-là, elle a eu un gros déclin dans les années 70, qui est probablement lié aussi au changement climatique. Depuis, en fait, ça a oscillé, c'était relativement stable, même en légère augmentation depuis quelques années. Et puis là, depuis 4-5 ans, on a des épisodes de mortalité catastrophique chez les poussins parce que en fait on a de la banquise ferme qui offre aucune possibilité pour aller à l'eau, qui est vraiment très étendue, c'est-à-dire qu'entre la colonie et les lieux de gagnage, on va avoir 80-100 km. Et il y a une période critique en septembre, octobre, novembre où les poussins ont besoin vraim de beaucoup de nourriture. Ce qui fait que les poussins sont affamés parce que les adultes n'arrivent pas à faire le voyage suffisamment rapidement. Ouais. Et il y en a beaucoup qui meurent de froid. Alors c'est ce qui est passé il y a 3 ans, si je me souviens bien, où là on a eu sur plus de 3000 poussins au départ, une centaine à peine de vivants à la fin. Donc c'est vraiment catastrophique.
Hécatombe, ouais.
Donc là, une hécatombe, il y avait des milliers de poussins morts sur la banquise. Ça s'est reproduit l'année suivante un tout petit peu moins fort. Et l'année où il y a eu l'expédition Antarctica, là c'était une très bonne année qu'on a rarement vue depuis peut-être 10 ou 15 ans. Et cette année, à nouveau, là on a le même phénomène, c'est-à-dire que là il y a eu plus de 2000 poussins de morts depuis le début de l'année.
Avec ces problèmes justement de temporalité dont on parlait avec Luc Jacquet, qui du coup ne peuvent plus être respectés.
En fait, c'est vraiment la distance qui va séparer la colonie et que les adultes doivent parcourir pour aller chercher de la nourriture, qui est importante. Quoi.
Laurent Balesta, vous avez fait toutes les images sous-marines de l'Empereur?
Alors, moi, j'ai fait de la photographie. C'est Yannick Gentil qui faisait les images vidéo qui sont dans le film. Mais pour revenir sur ce mécanisme dont parlent Luc et Christophe avec des mots différents... De cette mécanique qui semble parfaite, etc. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a un moment où Pourtant, j'ai une formation scientifique, mais on sent qu'à un moment donné, il y a une sorte presque de libre arbitre et de ce poussin empereur qui arrive au bord de la glace et qui ensuite, on a la sensation qu'il y a une réflexion. Ouais. Parce qu'il est là, mais
ça,
il va attendre.
Ça dure des jours, d'ailleurs.
Ah, mais
hein.
C'est, là, je peux vous dire, j'ai mesuré.
Avant le premier plongeon.
Ouais, ouais, parce que nous, forcément, l'équipe terrestre attend sur la glace le premier bain, le premier plongeon qui doit être saisi. Voilà. Puis nous, on est bien obligé d'aller l'attendre dans l'eau. Donc là, c'était terrible. Et ça a pris plusieurs jours. Et ça, c'est ça. Donc je me souviens très bien de ce face-à-face. Moi, je suis dans l'eau. Et Yannick est à côté de moi. Nous sommes dans l'eau. On meurt de froid, littéralement. Ouais. Et les poussins empereurs sont au bord de la glace, regardent l'eau. Et la regarde comme ça pendant des heures et des heures et des heures avant de vraiment se lancer. On sent que, on a l'impression que même eux sentent que ça va être dur quand même.
Christophe Barbereau, c'est vrai que c'est ce moment de réflexion du poussin pour son premier bain.
Réflexion, je pousse un peu loin, l'anthropomorphisme. Mais...
Exactement, mais quand même c'est saisissant parce qu'on le voit dans le film de Luc Jacquet, quoi. C'est incroyable.
Ben, allez voir, on a l'impression vraiment qu'il y a une crainte, quoi. Et qui est en partie justifié parce qu'ils ont quand même des prédateurs comme les léopards de mer à cette époque de l'année. Donc il y a quand même une crainte, je pense, de prédation qui est probablement instinctive.
Ouais.
Et puis après, il y a l'inexpérience, donc qui fait que les premières plongées, elles sont pas profondes, elles durent pas longtemps, et ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'ils puissent être à peu près autonomes. Quoi.
En tout cas, Luc Jacquet, chapeau pour le film, vraiment, parce que moi je l'ai vu hier soir en avant-première, et j'invite vraiment le public à aller découvrir vos images, qui 12 ans plus tard donnent d'ailleurs l'impression de voir l'Antarctique encore d'une autre façon. C'est absolument splendide ce que vous avez filmé sur les sauts, par exemple, des manchots de la mer jusqu'à la banquise. Hein. Et alors, il y a justement une scène sous-marine qui est absolument incroyable parce qu'elle nous laisse dans l'incertitude pendant quelques secondes. On voit un manchot qui nage sur le dos et on a l'impression qu'il est à l'extérieur et en fait il est dans l'eau avec une espèce de sous-vague qui est là pour créer une sorte de danse.
Oui, l'idée c'était vraiment de donner aux spectateurs d'approcher ce que peut-être ressentir un empereur quand il va sous l'eau, c'est-à-dire après ces marches difficiles, endurantes, pesantes, on sent qu'il y a vraiment une apesanteur, ça c'est toutes les images que nous ont ramenées Yannick et Laurent, on sent qu'il y a une allégresse, un plaisir d'être dans l'eau qui les rapproche plus effectivement des plus beaux planeurs que des oiseaux au fond.
Ouais. Christophe Barbereau, donc vous les suivez, certains de ces manchots, depuis très longtemps, parce qu'on voit ça aussi dans l'un des documentaires, vous leur posez des balises, et puis des fils aussi sur la banquise, pour voir le nombre de passages de ces manchots et puis leur parcours en mer.
Oui, alors il y a plusieurs équipes de scientifiques là dans plusieurs labos qui suivent les manchots. Il y a ces antennes en fait, c'est pour mesurer. Ils sont marqués avec des puces RFID, donc comme on met sur les chiens, ce qui permet de suivre individuellement les individus au cours du temps et de là de déduire les taux de mortalité, les taux de présence à la colonie, etc. Et après il y a d'autres types de suivi qui sont aussi faits par d'autres chercheurs qui consistent à poser des balises Argos ou GPS sur les oiseaux pour savoir où est-ce qu'ils vont en mer pour s'alimenter. Et ça a été fait au début des années 90, les premières études sur les adultes, sur les manchots empereurs. Par contre, ce qui a été fait plus récemment, ça fait seulement 4-5 ans, c'est sur les jeunes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a su pour la première fois où allaient les jeunes quand ils partaient de la colonie. Ouais. Il y a encore une grosse part d'ombre qu'on ne connaît pas, c'est qu'on sait ce que font les jeunes pendant les 5-6 premiers mois de leur vie. Ensuite, les balises Argos, les batteries s'arrêtent. Et les premiers individus vont revenir à la colonie se reproduire à l'âge de 4 ou 5 ans. Ce qui fait qu'entre 1 et 4 ans, en gros, on ne sait absolument pas ce qu'ils font. Ouais. Voilà.
Plein de mystères, plein de questions justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jacquet. Qu'est-ce qui a changé pour vous en 12 ans finalement, depuis la marche de l'Empereur jusqu'à ce nouveau film là maintenant?
Ben je crois avoir appris à filmer un peu mieux peut-être, à raconter un peu mieux des histoires, et je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre ce savoir-faire au service de cet animal qui me passionne au fond, quoi. C'est quelque chose, la marche de l'Empereur s'était faite tellement presque sur un malentendu, on était parti avec des moyens relativement limités, rustiques, on avait fait qu'effleurer la dimension sous-marine. C'est vrai qu'aujourd'hui il y avait un plaisir à tourner avec ces nouvelles caméras 4K qui ramènent une image incroyable, aller durablement sous l'eau, pouvoir suivre l'Empereur au moins sur les quelques premiers mètres de son évolution. C'est vrai que c'était gratifiant. C'était gratifiant aussi pour moi de revenir derrière la caméra parce que j'ai eu le temps et le plaisir de pouvoir vivre au rythme de l'Empereur et de leur consacrer le temps qu'il fallait. S'il fallait mettre 8 jours pour faire une image, je prenais ces 8 jours. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un luxe rare quand on fait du cinéma.
Ouais, et pour ceux qui ont vu la marche de l'Empereur, c'est un nouveau film, vraiment, avec ces nouveaux dispositifs, évidemment, qui permettent de suivre ces manchots. Donc ce sera le 15 février sur les écrans. On vous souhaite le même destin, évidemment, que le premier, avec pourquoi pas un deuxième Oscar à la clé qui sait, si l'aventure se répète. Laurent Balesta, vous partez où, vous, maintenant? Quelles sont les missions du plongeur, là, en vue?
Je pars demain.
Ouais.
Demain, je pars à l'île de la Réunion pour aller plonger sur les coulées de lave de 2007, donc 10 ans après, ouais. Et voir la vie qui s'est installée sur ces coulées de lave à grande profondeur 10 ans plus tard. Voilà, ça, bon, c'est...
Vous aurez des images à nous rapporter aussi?
Des histoires sans doute. Ouais,
on compte sur vous.
On verra.
Et puis Christophe Barbereau, les recherches se poursuivent, hein, parce que ça, c'est un travail de longue haleine aussi, hein,
oui,
pour récolter des données.
Oui, il faut pas lâcher.
Et pouvoir tirer des conclusions sur, par exemple, le réchauffement climatique, parce qu'il y a encore point d'interrogation sur les conséquences du réchauffement sur ces animaux. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. L'Empereur, donc, à ne pas manquer, c'est le 15 février sur les écrans. Et puis, dès samedi, une soirée spéciale sur Arte avec deux documentaires qui vont se suivre, 20h50, Antarctica sur les traces de l'Empereur et 22h20, Les secrets des animaux des glaces. Merci beaucoup à tous les trois.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous souhaitez nous parler aujourd'hui de l'état de santé des hommes politiques.
Et tout d'abord, je précise que je ne suis pas en train d'imiter Don Corleone, mais que j'ai une vraie extinction de voix.
Ouais.
Savez-vous Mathieu, ce qu'est une maladie professionnelle?
Ça touche quoi, des gens qui bossent a priori, non?
C'est ça. Ouais. C'est une affection qui est due à l'exposition à un risque, qui est associée à une profession, la silicose des mineurs par exemple. Alors, la maladie professionnelle, ça se différencie de l'accident de travail par son caractère chronique et son apparition progressive. En fait, c'est plutôt une définition administrative, hein, et la liste des maladies professionnel est publié dans le code de la sécurité sociale.
Alors, vous êtes intéressé aux maladies professionnelles des hommes et femmes politiques?
Une recherche très scrupuleuse, hein, la seule maladie répertoriée dans les listes officielles qui pourrait être facilement rattachée à l'exercice de la vie politique, c'est la tendinite provoquée par les serrages de mains énergiques et répétés sur les marchés en période électorale, le tennis elbow. Mmh. Mais heureusement, le législateur a prévu et même étendu récemment le champ des maladies psychiques qui peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles, à commencer par l'épuisement professionnel, le burn-out en anglais.
Et pour la folie?
Ouais, vous pensez à l'aphorisme de Lord Acton, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. En fait, cet aphorisme pose l'éternel dilemme de l'œuf et de la poule. Est-ce le pouvoir qui altère l'empathie ou l'altération de l'empathie qui facilite l'accès au pouvoir? La mode actuelle est de présenter Donald Trump comme un fou ou un psychopathe, alors que c'est finalement juste un plouc qui est doté d'une grande intelligence politique.
Vous avez écouté La Tête au Carré, ou parce qu'on en a parlé.
Je vois
bien votre petit tac, là, je l'avais repéré.
L'histoire est peuplée de dictateurs qui ont manifesté des comportements abominables. Or, les rois, ils héritaient de leur pouvoir, il n'y avait toujours pas de sélection préalable. Et puis, il n'y a pas besoin d'études scientifiques quand même pour constater que beaucoup de gens ordinaires prennent un melon invraisemblable lorsqu'on leur confie des responsabilités importantes. Mais nous disposons tout de même d'expériences qui démontrent que le pouvoir modifie les comportements. Je pense à une publication dont je vous avais parlé ici en 2012. Elle montrait que le conditionnement préalable d'individus pour leur donner conscience d'appartenir à une catégorie sociale supérieure augmentait leur comportement. Antisociaux.
Oui, ça c'est quand même très inquiétant.
Eh oui Mathieu, En fait, le pouvoir s'agit plutôt comme une drogue. Son exercice réveille nos vieux instincts de primates en compétition pour la nourriture ou la reproduction. Chez les mammifères grégaires, les mâles dépensent beaucoup d'énergie pour acquérir une position dominante, mais surtout pour la garder. Et je ne sais pas si on peut parler de folie pour quelque chose qui est finalement aussi naturel. L'erreur en fait, c'est de ne pas tenir compte de ça et de croire qu'un homme ou une femme politique élue consacrera son énergie à faire le job, alors que sa priorité devient rapidement sa réélection. C'est donc à mon sens une vraie maladie professionnelle au sens d'une toxicomanie, mais dont les victimes sont les électeurs et non le malade lui-même. Un traitement efficace pourrait consister à limiter les fonctions électives à un mandat unique, car en matière de drogue, on devient rarement accro si on ne peut en prendre qu'une fois.
Merci Dominique, une chronique à réécouter sur franceinter.fr. Et la semaine prochaine, soignez-vous bien. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles dans un instant.
Il ne vous a pas échappé que ce qu'on appelle les deux gauches irréconciliables, le débat est très fort en ce moment, notamment avec la primaire. Et puis nous allons vous raconter une histoire a priori sociale, mais qui est très politique, celle de Florange et d'ArcelorMittal. Mm-hmm. C'est une illustration de ces deux gauches qui ne peuvent pas s'entendre. Et notre invitée, ce sera Elsa Fresnay, journaliste aux Échos, auteur avec Valérie Astruc de l'ouvrage intitulé Florange, la tragédie de la gauche, justement.
Eh bien, à tout à l'heure, Fabrice.